Chers amis visiteurs, bienvenue. Je me présente pasteur Marie-Hélène, église pasteur principal de cette église. C'est un honneur, une joie pour moi de vous servir. Et j'aimerais vous apporter ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Regardez avec moi dans Marc chapitre 11, verset 24. Avec les mêmes versets que j'avais envoyés, vous ne les avez plus, bon. Marc 11, 24. Vous savez, une parole de Dieu peut changer notre vie. Ce qui veut dire que si nous recevons cette parole aujourd'hui, cette parole va nous éclairer. Et quand on voit quelque chose de vrai, alors notre vie change. Alors, Marc chapitre 11, verset 24. Le Seigneur nous dit, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, priant, ce n'est pas juste résister des prières à tout va, ça, je pense qu'on peut fermer la porte là, égrener un chapelet à toute vitesse, sans réfléchir à ce que l'on dit, ne sert à rien. C'est comme si quelqu'un vous parlait en vous répétant cinq mêmes phrases à toute vitesse toute la journée. À la fin de la journée, qu'auriez-vous envie de faire? De vous boucher les oreilles et de dire « Stop, parle-moi de ton cœur ». Donc tout, le Seigneur dit « Tout ce que vous demanderez en priant, priant qui ? En priant le Père au nom de Jésus, croyez ». Que vous l'avez reçu. Alors, j'ai déjà prêché sur ce sujet-là la semaine dernière et la fois d'avant, donc vous pouvez réécouter. Et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que quand on fait les choses à la manière de Dieu, on obtient les mêmes résultats que ceux qui nous sont promis. C'est aussi simple que cela. Alors, parfois, ça prend du temps à recevoir les choses. Il peut y avoir mille et une raisons, mais une des raisons, c'est que nous avons besoin de pratiquer. Et quand nous pratiquons, eh bien, parfois, il faut un petit peu plus de temps, mais plus nous sommes habitués à faire les choses à la manière de Dieu, et plus rapides sont les résultats. Donc, ici, on sait si on fait les choses à la manière de Dieu, pas forcément toujours à cause de la vitesse de l'exaucement, mais parce que, je vous le lis, Matthieu 11, verset 30 nous dit, c'est Jésus qui dit, « Car mon joug est doux et mon fardeau lourd. Hein? » Une autre version, non, c'est léger, une autre version dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Il dit, « Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour votre âme. » C'est-à-dire que quand nous avons demandé quelque chose à Dieu, si nous avons fait les choses à la manière de Dieu, même si nous ne voyons pas encore le résultat, nous devrions au moins avoir le repos dans notre âme et ne pas avoir cette lourdeur sur nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes confiants que ce que nous avons demandé à Dieu, nous le verrons s'accomplir. Nous le recevons au moment où nous prions, mais un jour nous le voyons s'accomplir. Et gloire à Dieu, parfois c'est sur le moment. Plus nous pratiquons, il est vrai que plus c'est rapide. Et le Seigneur dit que si nous acceptons son joug c'est quoi ? Bah, on se rappelle de ce qu'est un joug. Un joug, c'est ce morceau de bois qui était taillé, ce gros morceau de bois qui était taillé de manière à ce que l'on puisse le poser sur le cou de deux animaux. Et le Seigneur, mais ce n'est pas quelque chose qui avait pour but de les empêcher d'avancer. C'est quelque chose qui avait pour but de les aider à avancer. Mais il ne s'agissait pas qu'un animal aille dans une direction et l'autre dans une autre direction, parce que cela veut dire que le travail n'aurait pas été fait. la raison pour laquelle ils étaient là, dans le champ, n'aurait pas pu être réalisée. Et le Seigneur nous dit, eh bien, il voudrait que nous acceptions de porter son joug, c'est-à-dire que nous sommes supposés avancer avec lui dans la même direction, dans le même champ, et c'est à ce moment-là que la raison pour laquelle nous sommes sur terre est accomplie. Quand on va dans une direction alors que le Seigneur Jésus va dans une autre direction, vous comprenez que sa volonté dans notre vie ne peut pas être réalisée. Mais il nous dit que quand il nous invite à être liés avec lui dans cette même direction c'est quoi? C'est la guérison. Parce que le Seigneur ne nous conduit jamais vers la maladie. Cette même direction, c'est quoi? C'est le bien-être, c'est la prospérité à tous égards. Au point que nous soyons tellement bénis que nous puissions bénir d'autres. Cette même direction, c'est quoi? Aller avec certitude vers notre avenir, sachant que nous sommes sous ce même joug avec le Seigneur, liés vers notre destinée, qui est bonne, qui est victorieuse, qui est productive, qui est fructueuse et qui a un sens. Merci pour le peu d'enthousiasme. Mais le Seigneur dit pour cela, il dit recevez mes instructions. Le Seigneur, c'est-à-dire que vous comprenez que le Seigneur non seulement il dit je ne peux pas vous imposer mes instructions. Et à moins que vous n'acceptiez que ce joug soit placé sur vous et moi, eh bien je n'irai pas après vous pour chercher mes instructions. En sachant que la parole qu'il nous donne, les instructions qu'il nous donne, son sagesse, son vie, son espoir, son sécurité. Et il nous dit, le Seigneur nous dit, eh bien quand vous acceptez de recevoir mes instructions, vous comprenez en même temps. Est-ce que vous voyez cette image du joug? Certains sont trop jeunes, peut-être qu'ils ne la voient pas. Mais ce joug est placé sur le cou d'un animal. Ce bout de bois est placé sur le cou d'un animal et en même temps sur le cou. C'est-à-dire que le plus faible va suivre le plus fort, en espérant que le plus fort sache où il va. Le plus fort, c'est Jésus et il sait où il va dans la vie. Mais vous réalisez que quand il dit « recevez mes instructions » en même temps, il est lié avec nous dans notre destinée. On ne marche pas seul dans la vie. Quand on choisit de pratiquer les instructions, très souvent, les gens pensent qu'ils doivent pratiquer la parole de Dieu et puis Dieu les regarde du haut du ciel, quelque part, de son beau balcon. Jésus est quelque part assis sur son trône à la droite du Père et lui aussi nous regarde de ce même beau balcon. Et puis il dit, allez, je t'ai dit ce qu'il fallait faire. Bon courage! On se revoit, hein? Quand tu viens ici, on se revoit. Oui, je suis là, tout va bien. Je t'attends. Et nous, on essaie de nager dans la vie, et on prend la tasse et on dit, je compte sur mes propres forces, je vais couler. Non, le Seigneur est là avec nous. À chaque instant, il ne nous dit pas, prenez mon joug et moi je me débarrasse de ce joug. Il dit, prenez mon joug et moi je suis avec vous. Amen, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Vous réalisez ce que vous dites, on peut dire oui aussi. Hein. C'est pas grave. Ok, alors, Jean 1, 17. Quelqu'un dit Dieu est bon. Moi, je plains les gens qui n'ont pas la parole de Dieu. Je les plains, parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. On ne sait pas où on va sans la parole de Dieu. Mais quand on la trouve et qu'on la laisse éclairer notre vie, oh, quelle aventure! Vous avez trouvé Jean 1, 17. Alors, là, le Seigneur nous a donné ses instructions. Nous recevons d'abord son joug. Nous acceptons d'abord la vie avec Christ. Nous recevons ses instructions. Et ces instructions vont nous instruire à recevoir tout ce dont nous avons besoin de Dieu. Parce que c'est comme ça, hein, qu'on a commencé. Tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez, pourquoi on demande quelque chose? Eh, parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour soi ou on en a besoin pour quelqu'un d'autre? La prière, ça n'est pas juste « bénis-moi, Moi, mon mari, ma femme, ma fille, mon garçon, mon chat. C'est pas ça. On prie pour la planète entière. On a prié pour la France entière ce matin. Vous avez trouvé Jean 1, verset 17. La Bible nous dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité, elles sont venues. Elles sont venues. Elles sont venues. La grâce, c'est quoi ? La grâce parle de tout ce qui a à voir avec l'initiative de Dieu de faire quelque chose pour nous gratuitement et de nous le donner gratuitement. À chaque fois que l'on pense à quelque chose que l'on voudrait recevoir de Dieu, pensons que l'initiative de nous donner vient de Dieu. Et pensons qu'il nous le donne gratuitement. Alors, ici, il y a deux distinctions. Apparemment, on a changé d'époque. Pas quand on est passé du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018, mais nous avons changé d'époque. L'humanité a changé d'époque. L'histoire de l'humanité a changé de période quand l'humanité est passée de la loi ou quand Dieu s'est exprimé à l'humanité à travers la loi qu'il a donnée aux Juifs, pour ensuite parler à toute l'humanité en envoyant Jésus nous donner la grâce et la vérité. Alors, ce qui veut dire que la loi, c'est quoi ? Ben, la loi, c'est un ensemble de commandements. Tu fais ci, tu fais pas ça. Tu fais ci, tu fais pas ça. Pas simplement tu fais ci, tu fais pas ça. À tel moment de l'année, tu fais ci, tu ne fais pas ça. À tel moment de l'année, tu fais ci et tu ne fais pas ça à cet endroit et pas à cet autre endroit. Et tu fais ci à tel moment de l'année, à tel endroit, comme je te le dis, en fonction de certaines proportions. Une fois qu'on a réfléchi à tout ce que l'on doit faire et pas faire, bah, ça c'est un joug qui est lourd. Ça n'est pas un fardeau léger, c'est un fardeau qui est lourd. Donc mes amis, si votre vie chrétienne aujourd'hui est lourde, c'est que peut-être vous êtes en train de vivre sous une ancienne période en essayant de plaire à Dieu par vos mérites. Et ça peut être très subtil, très subtil. Les mérites pour un chrétien, ça peut être le nombre d'heures que l'on passe à lire la Bible. Vous savez, tous les jours, nous devrions communiquer avec Dieu, communiquer à travers ce texte sacré qu'est la Bible, oui, en lisant une portion, mais non pas comme « Seigneur, j'ai lu 4 chapitres de l'Ancien Testament, j'ai lu 10 chapitres du Nouveau, oh Seigneur, je suis sûr que tu seras avec moi aujourd'hui. » Ben, si c'est ça, la vie chrétienne, le fardeau est lourd et le joug n'est pas léger. Il n'y a aucune joie à vivre ce style de, à mener ce style de vie-là. Maintenant, si je lis ma Bible parce que j'ai envie de découvrir qui est mon Père céleste, j'ai envie de découvrir qui est ce merveilleux Seigneur qui a versé son sang pour changer ma vie, ah, ça change. Et donc, quand l'Éternel Dieu, la Bible nous dit que l'Éternel a toujours cherché à parler aux êtres humains, tout le temps. Mais fut un temps, il parlait aux êtres humains à travers le peuple juif quand il leur a donné la loi et il leur a demandé d'appliquer la loi. Et la Bible nous dit que la raison pour laquelle il avait donné la loi au peuple juif, eh bien, c'était, à vrai dire, pour montrer sa grâce. Même sous l'Ancien Testament. La grâce n'est pas un concept du Nouveau Testament. La grâce, Dieu a toujours été un Dieu qui a donné gratuitement. Sinon, depuis longtemps, il n'y aurait plus aucun être humain sur terre. Mais il s'est suscité un peuple, il s'est mis un peuple à part. Il a donné sa loi, il a donné ses commandements, et il a dit, vous allez faire ce que vous pouvez. Vous allez obéir à toute la loi. Et là, je vous bénirai. Et étant certain de leur capacité, ils l'ont fait. Mais si il est évident qu'à un moment, ils n'arrivaient plus à observer tous les commandements, l'histoire des pigeons et des vaches, et sacrifier à un tel endroit, à une telle période de l'année, d'une certaine manière, manger ensuite d'une certaine manière. Et vous croyez qu'ils arrivaient vraiment à faire cela? Or, la Bible nous montre la bénédiction de Dieu qui accompagnait le peuple juif. Et la raison pour laquelle ils ont eu cette loi, c'est que les peuples d'alentour ont vu, non pas leur obéissance, mais la grâce de Dieu. Et les peuples alentour, quand ils étaient auprès du peuple juif et qu'ils l'observaient, ils étaient censés dire, mais comment, après tout ce que vous faites, vous êtes en train de me dire que vous obéissez à fond, et vous êtes en train de me dire que, mais pourtant moi je sais que, d'accord, tu fais tous tes rituels, hein, tu essaies d'obtenir tout par l'obéissance, mais moi je sais que tu triches dans les affaires. C'est pas un stéréotype, hein. Moi je sais que tu ne plantes pas les bonnes semences dans ton champ comme tu devrais le faire. Moi, je sais que tu trompes ta femme. Moi, je sais que si. Moi qui te vois dans mon quartier, je sais que tu ne fais pas tout, tu fais tous les rituels. Mais ton cœur, je sais qu'il n'est pas comme tu devrais être. Alors, pourquoi cette bénédiction? Mais comme les Juifs avaient les yeux sur leur rituel, leur mérite, ils pensaient que c'était à cause de leur mérite qu'ils avaient la bénédiction, qu'ils vainquaient des géants. Mais à vrai dire, il y avait beaucoup plus. Il y avait déjà la grâce de Dieu qui était à l'œuvre. Ceci dit, la loi avait pour but de montrer que l'être humain ne peut pas plaire à Dieu par ses mérites. Et donc, quand un chrétien essaie de recevoir la bénédiction de Dieu manifesté en Jésus-Christ, quand il essaie de vivre avec des bénédictions, quand il essaie de recevoir par la foi des bénédictions, tout en monnayant avec Dieu, tout en disant à Dieu, « Seigneur, tu dois me bénir parce que, regarde, j'ai donné tant dans les offrandes. Tu dois me bénir parce que j'ai prié tant d'heures. Tu dois me bénir parce que je te sers depuis des années. » Tu dois bénir mon fils, tu dois bénir mes affaires parce que je, mes amis, la loi nous rend conscients de nous. Et ça ne marche pas. Nous sommes aujourd'hui sous la dispensation révélée à tous de la grâce, c'est-à-dire de ce que Dieu fait et donne gratuitement. Donc, si nous voulons recevoir de Dieu, nous ne pouvons pas faire comme sous l'Ancien Testament, le Seigneur dit, je vous le dis en Exode, chapitre 23, verset 22, le Seigneur disait, « Mais si tu écoutes ma voix, si tu fais tout ce que je te dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Tout ce que les Juifs avaient à faire, c'était les rituels. Mais on comprend que dans leur vie quotidienne, ils ne pouvaient pas obéir à Dieu. Donc s'ils essayaient d'obéir à Dieu sur la base de leur mérite personnel, ils ne pouvaient obéir à Dieu qu'à travers les rituels que Dieu leur avait donnés. Donc quand le Seigneur dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu », il ne pense pas à nos mérites. Il ne pense pas à uniquement à notre obéissance. Il est clair que nous sommes responsables d'obéir à Dieu en fonction de la volonté qui nous a été révélée. Mais vous ne croyez pas que malgré tout ce que l'on sait devoir faire, on pêche ? Non, j'ai l'impression d'être la seule ici, là. Donc quand on cesse d'approcher Dieu sur la base de notre obéissance, regarde Seigneur ce que j'ai fait, et que l'on approche Dieu sur la base de la foi, mais on pourrait dire la foi en quoi ? Ben on va le voir. Regardez avec moi dans Matthieu 12. Donc ici on peut voir que la guérison était obtenue, dans l'Ancien Testament, la guérison, la victoire était obtenue sur la base des rituels. Leur cœur n'avait pas été changé. La Bible nous dit, nous sommes aujourd'hui sous la période de la grâce et de la vérité. De la grâce, c'est-à-dire que Dieu a pris l'initiative de faire quelque chose pour nous afin de nous le donner sans qu'on ait à le mériter. Juste en acceptant de croire que ce que Jésus a fait est suffisant. Pour que Dieu soit content de nous donner ce que nous lui demandons. Vous croyez que Dieu est content de vous donner ce que vous lui demandez? Vous croyez que ça fait plaisir à ce Père céleste de vous venir en aide? Vous croyez que ça fait plaisir à ce Père céleste de regarder ses enfants et de se réjouir de ce que leur vie changée va refléter son amour? Regardez dans Matthieu 12. La Bible nous dit que fut un temps, on approchait Dieu et on recevait en fonction de nos mérites. Depuis que Jésus est venu, les choses ont changé. Et regardez ça, Matthieu chapitre 12, verset 15. « Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. » La Bible nous dit que la foule a suivi Jésus et il a guéri les malades. Est-ce qu'il a eu le temps d'entendre parler de leurs bonnes œuvres? Hein? Est-ce qu'il a appelé chaque malade à la confession? Il a tiré un grand rideau dans un champ et il dit « Allez, là, en ligne, je veux pas voir un cheveu qui dépasse, en ligne, premier, viens ici. » Je t'écoute. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Dites-moi, vous croyez qu'il y aurait la file? Vous croyez que ceux qui sont malades et qui viennent chercher leur guérison se mettraient en rang d'oignon pour aller parler du mal qu'ils ont fait? Ben, c'est ce qu'on veut faire croire aux gens. La Bible dit que nous avons été pardonnés il y a 2000 ans. Dieu ne nous traite plus. Écoutez bien, marquez-le, écrivez-le. Écrivez-le au rouge à lèvres sur votre miroir, mesdames. Messieurs, mettez de la mousse, écrivez-le à la mousse à raser sur le miroir de votre salle de bain. Peu importe, comprenez-le. Nos péchés ont été pardonnés il y a 2000 ans. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, le problème du péché a été réglé une bonne fois pour toutes. Parce que le sang a déjà été versé. Et ça n'est que le sang qui efface les péchés. Si vous me dites que vos péchés n'ont pas été effacés, ça veut dire qu'il doit y avoir un autre sacrifice qui doit arriver. Et ça, ça n'est pas possible. Donc les péchés ont été réglés, le problème du péché entre les hommes et Dieu, entre Dieu et les hommes, a été réglé une bonne fois pour toutes, il y a 2000 ans, passé, péché passé, présent et futur. Ce qui veut dire que Dieu ne te traite plus en fonction de ton péché. Soyons intelligents, le péché nous fait du mal à nous. Mais Dieu ne nous traite plus en fonction de nos péchés. Il va nous traiter en fonction de quoi ? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ici, Jésus est en train de démontrer que, alors que sous la loi, les gens recevaient leur guérison à cause de leur obéissance et de leur mérite, aujourd'hui, avec Jésus, il guérit tout le monde Là, il le faisait à crédit, Jésus n'était pas encore mort, mais il le faisait, il guérissait les malades en fonction de l'obéissance parfaite qu'il montrerait à la croix. Aujourd'hui, la croix est passée, nous regardons en arrière, Jésus a payé pour les péchés, le prix a été réglé, et on peut se mettre devant le trône de Dieu. Il n'y a pas une file d'attente, on est tous devant le trône de Dieu. Et on dit, Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans mon corps. Seigneur, je reçois ma guérison maintenant. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans ma famille. On ne vient pas pour confesser ses péchés. On n'attend pas de se retrouver devant le trône de Dieu pour confesser ses péchés. On ne confesse pas, je vais vous choquer, mais tant pis, on ne confesse pas ses péchés pour être pardonné. Parce que si le pardon a été donné il y a 2000 ans, qu'est-ce que tu fais, toi ? On confesse nos péchés pour admettre avec humilité, on a mal fait et j'ai besoin de ta grâce. Ouf, Seigneur, je n'ai pas besoin de payer. Merci, j'ai été pardonné. Vous comprenez la différence ? On va voir. On va voir Matthieu, chapitre 5. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit « Recevez mes instructions » ? Parce que la grâce, nous sommes sous la grâce maintenant. Et les instructions de Dieu ont pour but de nous aider à recevoir ce dont nous avons besoin, non pas en fonction de nos mérites, non pas en fonction de nos bonnes œuvres. Dieu ne nous... Si on ne reçoit pas, si les gens croient que l'on reçoit en fonction du bien qu'ils ont fait, il n'est pas étonnant qu'ils s'attendent à ne pas recevoir en fonction du mal qu'ils ont fait ou du bien qu'ils n'ont pas fait. Alors, je vous rappelle que tout ça, c'est enregistré et que vous aurez l'occasion de réécouter. Allez, on va voir à quel point la grâce de Dieu est abondante. Regardez avec moi, Matthieu chapitre 5. Vous avez trouvé ? Là, pour vous donner le contexte, il y a une femme qui souffre d'hémorragie chronique. Et depuis des années. Depuis des années. Donc, vous imaginez l'état de faiblesse physique dans lequel elle se trouvait. Il n'y a pas de prise de perfusion sanguine à l'époque. Non seulement cette femme-là avait grandement souffert sous la maladie est un maître cruel. Si on le laisse faire, si on lui laisse un centimètre, ce maître veut tout le bras. Si on laisse la maladie dominer sur tout le bras, il veut tout le corps. Ça ne va pas, ça. Dès que les symptômes de la maladie s'approchent, on dit « Oh non, Jésus, je règne sur toi, je te refuse. Retourne d'où tu viens. Tu restes loin de moi. Tu ne peux pas t'installer dans mon corps. » Donc cette femme, en plus, non seulement elle était malade, mais comme elle souffrait d'hémorragie chronique, elle était considérée impure par la société de l'époque. Donc elle n'avait plus aucune vie sociale. Et la Bible nous dit qu'en plus, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait auprès des médecins parce que quelqu'un qui est normal dans sa tête, il va tout faire pour essayer de vivre et retrouver le chemin vers la société. Donc cette femme, elle n'avait plus rien. Mais plus rien, de chez rien. Elle était isolée. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes avec moi ? Or, il y avait une femme, verset 25, atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Est-ce que c'est long, 12 ans ? Rappelez-vous où vous étiez il y a 12 ans. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et la Bible nous dit que quand elle a touché le vêtement de Jésus, Jésus a su que la puissance de Dieu l'avait quittée et il a demandé, mais qui a fait cela ? La femme s'est dévoilée et le Seigneur a confirmé sa guérison. Remarquez une chose. Cette femme-là, il est dit qu'elle a été ayant entendu parler de Jésus. Quand elle a entendu parler de Jésus, d'après vous, est-ce qu'elle a entendu parler de la loi? Non. Cette femme avait été bannie, complètement bannie, tout la bannissait. La religion la mettait au rancard. La médecine ne lui donnait plus d'espoir. La société, sa société ne voulait plus d'elle. Elle était confinée chez elle. Ayant entendu parler de Jésus, quand elle a entendu parler de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas eu les yeux sur elle. Elle a tellement perdu la conscience d'elle-même qu'elle a eu l'audace nécessaire pour sortir de chez elle. La Bible nous dit, elle est venue dans la foule. Vous savez ce qu'elle risquait, cette femme? Elle risquait la lapidation pour enfreindre la loi. Elle est sortie de chez elle. J'imagine comment elle est sortie de chez elle en regardant si aucun voisin n'était en train de la surprendre. Elle a réussi à se frayer un chemin par la foule. Qu'est-ce qu'elle a entendu de Jésus? Elle a entendu de Jésus, pas seulement qu'il guérissait, parce que sous la loi, elle pouvait être guérie. Mais elle a entendu de Jésus qu'il guérissait sans tenir compte de nos mérites. Elle a entendu de Jésus qu'il guérissait gratuitement. Lui ne posait pas de questions. La loi avait pour but de faire prendre conscience de soi. Et une fois qu'on avait pris conscience de soi, on découvrait qu'on n'était pas à la hauteur. On n'arrivait pas à faire ce que Dieu nous demandait. On n'arrivait pas à obéir à tous les commandements. Jésus est venu, les choses changent radicalement. Cette femme qui était une femme juive, qui était sous la loi, entend parler que le Messie est en ville, le Messie est à Nice. Elle sort de son appartement, elle ne prend pas l'ascenseur parce qu'elle sait que les voisins y sont. Elle prend l'escalier de secours, elle prend la porte de derrière, elle sort par le parc de derrière, elle se fraye un chemin jusqu'à la place Masséna. Tout le monde est là en train d'écouter Jésus. La sécurité est là. Je vous l'accorde, mais Jésus est là. Il est en train de prêcher. Il est en train d'enseigner. Il est en train de guérir les malades. Et pour une fois, ça n'est pas une ligne de confession des péchés qui est devant lui. Ce sont des gens qui sont de toute condition physique, de tout statut de la société. Des gens qui sont âgés, des gens qui sont jeunes, des mariés, des célibataires, des gens qui ont connu l'échec, des gens qui ont péché, une femme qui a commis 5 adultères, un homme qui a arnaqué tout le monde en ville. Et ils sont tous là devant lui parce qu'ils ont compris qu'il donne sans tenir compte des péchés. Cette femme arrive par derrière et le touche. Elle n'a pas peur d'aller chercher sa guérison. Elle n'a pas peur d'aller chercher l'argent dont elle a besoin. Elle n'a pas peur d'aller chercher la paix. Elle n'a pas peur d'aller chercher un futur nouveau. Elle n'a pas peur d'aller chercher un travail parce qu'il est là, celui qui ne demande pas « qu'as-tu fait de mal ?» Elle était si consumée. À nouveau, la loi nous amène à avoir conscience de nous-mêmes. Est-ce que j'ai fait ceci? Est-ce que j'ai fait cela? Est-ce que j'ai été assez ceci? Est-ce que j'ai été assez cela? Est-ce que j'ai assez lu ma Bible? Est-ce que j'ai été assez à des réunions de prière? Est-ce que j'ai donné assez à l'Église? Est-ce que j'ai été suffisamment en voyage missionnaire? Est-ce que j'ai témoigné assez? Est-ce que j'ai suffisamment de disciples qui me suivent? La loi nous amène à avoir ce genre de relation. Mais Jésus, lui, nous amène à être conscients de lui. Et cette femme était tellement émerveillée par l'amour qu'elle était en train de découvrir, par ce Messie extraordinaire qui donnait gratuitement, avec générosité, qui n'amenait pas les gens à avoir un complexe d'infériorité devant lui pour bien leur faire sentir qu'il était lui, oh, saint et intouchable. Mais il accueillait. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Repars, tu es guéri. Repars, tu es pardonné. Repars, ton enfant reviendra. Repars, je te donne ce travail. Repars, tu passes l'éternité avec Dieu. Repars, vas en paix. Recevez mes instructions. Mon joug est léger. Et il est bon, nous les chrétiens du 21e siècle, de se demander quel est l'état de ma relation avec le Seigneur Jésus. Est-ce que j'ai reglissé sous la loi? Oui, bien sûr que nous lisons notre Bible. Oui, bien sûr que tous les jours, nous communions avec Dieu. Et pas parce qu'on a des comptes à rendre. Il n'y a pas un agenda que l'on tient avec lui. Parce qu'on croit qu'on est aimé de lui. C'est notre meilleur confident, notre meilleur ami. C'est notre sauveur, notre Père céleste. La Bible dit que nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ. Tous nos besoins sont couverts. Laissons-nous consumer par Jésus. Et je vais terminer avec ce verset dans 2 Corinthiens, chapitre 10. Ayons les yeux sur celui qui a fait le sacrifice et non pas sur nous. Tous les chrétiens qui pensent qu'ils ne méritent pas ont un complexe devant Dieu. Ils se sentent coupables. Alors, écoutez bien ceci. Attention aux chrétiens qui disent on doit aller plus profondément en Dieu. On doit prier plus. On doit lire plus notre Bible. Ma question est, pourquoi ces phrases sont données? Pourquoi? Oui, oui, moi je veux prier plus. Mais pas parce que j'aurai recevrai plus de Dieu, parce que ce sera une négociation sur une échelle de mérite, mais parce que je veux être plus efficace, par reconnaissance, je veux faire plus pour lui. Vous avez trouvé 2 Corinthiens, et croyez-le ou pas, je vais terminer avec cela. Il est dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que quand on entend la vérité, quand on entend parler de Dieu, on entend ce que la Bible dit de Dieu, ce que la Bible dit de nous, et que l'on se surprend en train de raisonner à l'inverse de ce que dit la Bible. La Bible dit non, on choisit la connaissance de Dieu. Les gens ne réalisent pas, mais nous ne sommes pas victimes de nos pensées. En tout cas, on ne devrait pas l'être. On devrait gérer ce que l'on pense. Oui, j'accepte de penser cela parce que c'est vrai, parce que c'est louable, parce que c'est honorable, parce que c'est juste, parce que c'est digne de confiance, etc. Et je refuse de penser ceci parce que c'est faux, parce que ça n'est pas louable, parce que c'est da-da-da. Vous comprenez? Donc, c'est ce que dit ce début de verset. Mais encore, il est dit, « Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alors, ce verset, quelquefois, a été compris comme « Je dois faire en sorte que mes pensées soient prisonnières au point qu'elles obéissent à Christ. » On a souvent un peu cette idée-là. C'est « je dois, mes pensées doivent être comme prisonnières et je dois obéir à Christ. » Alors, dans un sens, oui, mais à vrai dire, ce n'est pas une pensée fausse C'est pas « je vais la rendre prisonnière ». Non. Dans mes pensées, je vais obéir à Christ, et puis finalement, je vais complètement obéir à Christ. Ce qu'il veut dire, c'est, ici, quand il est dit, « nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ », c'est « je vais fixer mes pensées, non pas sur mon obéissance à Christ, mais je vais fixer mes pensées sur son obéissance. Et je vais laisser mes pensées être captivées par son obéissance. » Mes amis, c'est la grâce. Parce que quand je dirige mes pensées vers son obéissance envers Dieu, vers ce qu'il a fait envers, pour ce qu'il a fait pour Dieu et qu'il a fait en ma faveur, alors je reçois par la grâce. Je ne suis plus concernée par mon obéissance, je suis concernée par son obéissance. C'est ça la foi. J'ai la foi, je crois que son obéissance suffit pour que je reçoive. Tu dis, mais ton obéissance là-dedans. Ben, si je suis captivée par l'obéissance de Christ, tout naturellement, je ferai ce qu'il me dit. Mais non pas pour mériter et recevoir, juste par réflexe, le réflexe de quelqu'un qui se sait aimé. Alors, certains sont déjà au match ou pas là? Est-ce que vous comprenez qu'on a changé de période? On n'est plus sous la loi. Dieu ne traite plus les gens en fonction de la loi parce qu'il a montré à travers un peuple que ça ne marche pas. En revanche, nous qui sommes au bénéfice de l'obéissance de Christ, acceptons de penser en fonction de son obéissance. Et la Bible dit « tout ce que vous demanderez en priant, alors croyez quoi ? Ben que son obéissance suffit. » Mes amis, on ne devrait pas avoir peur de s'approcher de Dieu. On ne devrait pas avoir peur de demander. On ne devrait pas avoir peur d'augmenter les chiffres dans nos requêtes. On ne devrait pas avoir peur de servir Dieu avec audace. Ça plaît pas, tant pis. Alors ma question est, qu'avez-vous besoin de recevoir ? Est-ce que vous dites, ah ben moi, je ne peux pas recevoir parce que je n'ai pas suffisamment lu ma Bible. Est-ce que vous dites, moi, je ne peux pas recevoir parce que je n'ai pas suffisamment prié. Est-ce que vous dites, moi, je ne peux pas recevoir parce que je n'ai pas servi le Seigneur pendant suffisamment de temps. Je ne peux pas recevoir parce que je n'ai pas donné assez à Dieu. Je ne peux pas recevoir parce que... Exactement, sa bonté. Exactement. C'est ça. Voilà. Gloire à Dieu. Tu as un témoignage sur l'obéissance. Eh bien, je pense que c'est le moment que tu le donnes. De toute façon, le match n'est qu'à 5 heures ce soir. Hein.
Pour dire qu'en fait, l'obéissance, c'est vrai, elle peut être comme un acte religieux, en fait. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Donc, j'habite dans une belle maison. Dans un très bel endroit où Dieu nous a amenés. Mais j'ai peut-être fini par en douter, puisque en fait, la fille du propriétaire nous fait un procès avec beaucoup de mensonges. Donc, il y a quand même une souffrance. Et en plus de ça, elle est venue habiter
sur la propriété.
Sur la propriété, voilà. Donc, en fait, du coup, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, je décide... On va quitter cette maison parce que ce n'est pas possible de vivre au milieu de nos ennemis. En plus de ça, ils continuent. En fait, dans le quotidien, on le ressent pas tellement. Mais enfin bon, en tous les cas, quand on reçoit des lettres, etc., où il y a plein de mensonges dedans, c'est assez révoltant, quoi. Donc moi, je devais vraiment m'afficher des versets pour rester calme, on va dire, et pour ne pas faire justice moi-même. Et donc, à un moment donné, j'ai décidé, bon, cette situation, c'est terminé. Donc, j'ai parlé à Fred et à mes enfants. Je leur ai pas trop demandé, enfin, je leur ai demandé leur avis, mais en fait, je m'en fiche un petit peu. J'ai dit, on part. Donc, j'ai dit à mes amis, apportez-moi des cartons. Maintenant, c'est décidé. On va déménager. On commence à chercher. Et en fait, le Seigneur m'a vraiment arrêté net. Et d'ailleurs, ça a été confirmé notamment par le pasteur, qui n'était pas au courant que j'avais changé de décision. Et le Seigneur m'a dit, non, tu vas rester. Et donc, bon, j'ai tout de suite obéi au Seigneur, en fait. Même si je ne comprenais vraiment pas pourquoi il voulait qu'on reste sur ce lieu, quoi. Et en fait, ça a été assez rapide, mais enfin, j'ai pu quand même voir un petit peu les conséquences d'une obéissance, en fait, sans... J'obéissais pour obéir à Dieu, parce que, voilà, il me le disait, j'étais assez consciente de ce qu'il me disait pour obéir, mais en fait, sans joie. Et presque, je me congratulais toute seule d'être une bonne fifi. Et voilà, c'est ça, t'es une bonne fille, t'obéis, alors que c'est super dur, tu sais pas pourquoi. Et presque, je disais même au Seigneur, t'as vu, je suis vraiment bien, quoi, je t'obéis. Et en fait, le Seigneur m'a très vite repris, m'a dit, non, mais c'est pas ça que je te demande, c'est d'obéir, mais dans la joie. Et là, ça a vraiment changé un peu les perspectives et en fait... l'intention, quoi. Donc, du coup, j'ai compris ce que le Seigneur me disait, tout à fait. Parce qu'en fait, je commençais presque à vouloir détester ce lieu qu'il nous avait donné et dans lequel il nous a amenés. Et en fait, voilà, donc du coup, j'ai décidé d'obéir avec joie. Et je me suis tout de suite...
Senti mieux.
Voilà, réorientée. Non, mais c'est vrai, senti mieux, ça, c'est sûr. Mais c'est là que le joug est devenu léger.
Voilà,
c'est là que le joug. Alors, je ne comprends pas pourquoi on est au milieu quand même de nos ennemis et on se sent super en paix. Et même l'autre fois, je travaillais à Menton puisque je travaille une heure de chez moi et j'ai vraiment eu ce sentiment d'avoir le plaisir de retourner chez moi. J'étais vraiment dans la joie de retrouver ce lieu et je me suis dit, mais c'est énorme parce qu'on vit au milieu de nos ennemis, quoi. Donc, on pourrait toujours être en train de ressasser, en fait, ce qu'il voudrait qu'on ressasse, ce que l'ennemi voudrait qu'on ressasse. Mais non, en fait, nous, on se sent complètement en paix. On continue de partager. Voilà, on continue de partager ce lieu avec les gens qu'on aime, etc. Et on y vit bien, qu'on y vit super bien. Mais en fait, c'est vraiment une paix qui surpasse toute intelligence. Et parce que j'ai décidé d'obéir. Dans la joie, en fait, avec le Seigneur. Voilà.
Ah ouais, merci. Oui, c'est ça. Alors, toi, tu donnes un témoignage de 2 minutes, on t'applaudit. Moi, je prêche pendant 1 heure. Et...
Non.
Ah, dis donc. Alors, oui, parce qu'elle est devenue plus consciente de Christ que d'elle-même et des circonstances. Super, merci. Bien, bah écoutez, en tout cas, si vous avez besoin de recevoir quelque chose, là, tout de suite, on va le demander à Dieu. Levez-vous. Quoi que ce soit que vous ayez besoin, levez-vous. Ceux qui ont besoin de guérison, alors c'est le Seigneur qui donne, donc ceux qui sont autour de vous, on va vous imposer les mains, ceux qui ont besoin, et levez les mains si vous avez besoin de guérison, là, parce que le Seigneur... Nous guérit. Il faut recevoir, juste recevoir. Ok, ceux qui sont autour, regardez à droite, à gauche. Je vois une main, je vois deux mains. Ok, allez. Merci, Père. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Seigneur, je crois, mon Dieu, que ce qui a été dit était clair. Et que toi, tu fais tout pour nous donner. Et on ne va pas se fier à ce que l'on ressent, on va juste se fier à ce que l'on sait, ce que l'on a entendu ce matin. Et on va dire ce que toi, tu dis. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions pour ceux qui ont besoin de guérison maintenant. Et je crois, mon Dieu, qu'ils sont plus à même de recevoir parce qu'ils ont compris que tu donnes. Tu donnes généreusement. Nous recevons. Parce que légalement, c'est à nous, grâce à ce que Jésus a fait pour nous. Nous avons les yeux sur le Seigneur, nous Nous refusons d'être conscients de soi-même maintenant. Merci pour la puissance de guérison qui remet tout en place. Seigneur, nous libérons ces fleuves de guérison, nous les dirigeons et nous déclarons au nom de Jésus que ces corps soient guéris. Que tout soit remis en place. Que toute douleur au nom de Jésus disparaisse. Amen. Quoi que ce soit que vous ayez besoin du Seigneur, demandez-le maintenant, demandez-le. Seigneur, merci parce que nous avons compris que tu veux nous donner, tu veux que ce soit facile pour nous de recevoir. Nous avons les yeux sur toi, nous sommes conscients de toi, pas nous-mêmes. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Nous recevons, Père. C'est facile de recevoir parce que nous comptons sur le fait que ton obéissance était suffisante. C'est facile de recevoir. C'est facile de recevoir. Et tu as dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alors nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, vous asseoir. Nous allons continuer en apportant